France Inter.
Aujourd'hui, l'intelligence cachée des insectes, racontée par
Mathieu Liorot, éthologue au CNRS à Toulouse.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pour expurger la Terre des souillures de la mort et faire entrer dans les trésors de la vie la matière animale défunte, il y a des légions d'entrepreneurs charcutiers, parmi lesquels, dans nos régions, la mouche bleue de la viande, Caphylophora vomitoria. C'est la grosse mouche d'un bleu sombre qui, sont couffées dans le garde-manger mal surveillé, stationne sur nos vitres et gravement y bourdonne, désireuse de s'en aller au soleil mûrir avec une autre émission de germes. La mouche bleue fréquente nos demeures l'automne et une partie de l'hiver, jusqu'à ce que les froids deviennent rigoureux. Mais son apparition dans les champs remonte bien plus haut. Dès les premières belles journées de février, on la voit se réchauffer, toute frileuse, contre les murs ensoleillés. En avril, je l'observe assez nombreuse sur les fleurs de laurier teint. Attirée par les émanations de mes charcuteries, les mouches bleues fréquentent mon laboratoire, dont les fenêtres restent toujours ouvertes. Journellement, j'en vois qui se posent sur les sachets et, très affairés, les explorent, renseignés par l'odeur de faisandé. Dans nos marchés, ceux du midi, surtout, le gibier est appendu sans protection au croc de l'étalage. L'acheteur se laisse tenter par d'irréprochables apparences, il fait emplette, et de retour chez lui, au moment des apprêts culinaires, il s'aperçoit que l'asticot travaille la pièce dont il se promettait délicieux rôti. Horreur, il faut jeter l'odieux foyer de vermine. La mouche bleue est ici la coupable, chacun le sait, et personne ne songe à sérieusement s'en affranchir, ni le marchand au détail, ni l'expéditeur en gros, ni le chasseur. Dans la remise en fusion de la matière pour d'autres ouvrages, cadavre pour cadavre, l'homme ne vaut pas mieux que la dernière des brutes. Alors le diptère use de ses droits, il nous traite comme il le fait à l'égard d'une vulgaire loque animale. Dans ses ateliers de rénovation, la nature est pour nous d'une superbe indifférence. Au fond de ces creusets, bêtes et gens, gueux et monarques sont absolument même chose. Voilà vraiment l'égalité, la seule de ce monde, l'égalité devant l'asticot. Jean-Henri Fabre, Souvenir entomologique, 1907. Bonjour Mathieu Liorot.
Bonjour.
Qui était Jean-Henri Fabre et que représente-t-il pour un spécialiste des insectes comme vous ?
Alors Jean-Henri Fabre, c'est un naturaliste, donc c'est un métier qui a à peu près disparu aujourd'hui, mais à l'époque, au 19e siècle, c'était un scientifique. Donc il était biologiste, il s'intéressait aux animaux, aux plantes, et il était aussi géologue et poète.
Pourquoi ces souvenirs entomologiques vous ont beaucoup marqué ? Alors, parce que vous dites à quel point vous les relisez d'ailleurs toujours aujourd'hui, ce sont deux livres très complets, hein.
Alors effectivement, il m'arrive souvent de me replonger dedans, ce sont des livres de référence aujourd'hui, parce qu'en fait, en décrivant le comportement des insectes dans son jardin, Jean-Henri Fabre a ouvert la voie à l'éthologie, donc l'étude scientifique du comportement animal.
Ouais.
Et donc c'est un des tout premiers à avoir réalisé des observations extrêmement détaillées, des expériences très ingénieuses, et qui aujourd'hui nous inspirent toujours autant, nous, éthologues du XXIe siècle.
Donc il a réalisé beaucoup de découvertes pionnières sur le comportement des insectes, et pourtant, paradoxalement, il n'a jamais embrassé la théorie de Darwin. Pourquoi ?
Alors pourquoi Jean-Henri Fabre était un homme de son temps, assez fermé, avec des convictions religieuses très très fortes. Et effectivement, c'était un contemporain de Darwin qui, lui, était en train de démonter un petit peu tous les fondements de la religion avec sa théorie de l'évolution des espèces, comme quoi toutes les espèces étaient liées les unes les autres. Et si on poussait à l'extrême le raisonnement, les insectes sont liés à l'homme.
Ouais.
Et donc c'est quelque chose que Fabre ne pouvait pas comprendre.
Il y avait un conflit pour lui, finalement.
Exactement, hein. Ça devait être très compliqué dans sa tête.
Entre la création et l'évolution. On va écouter la voix d'une femme, elle s'appelle Paul Rassa. Elle a été longtemps présidente des Fabrianistes. C'est une association créée en 1963 par les inconditionnels, justement, de Jean-Henri Fabre. Et voilà ce qu'elle disait de lui.
On a pu le comparer à un chef de tribu, et c'était vrai jusqu'à un certain point, parce que, justement, cet amour de la famille l'avait rendu un peu étouffant, peut-être. Certains de ses enfants ont pu s'en plaindre, les aînés en particulier, qui ont cherché à s'évader très vite. Par contre, les plus jeunes sont restés près de lui plus volontiers et on participait à ces promenades dans la colline, s'occupait de surveiller les abeilles, les araignées, les papillons et toutes sortes d'insectes. Il n'est que de relire les souvenirs entomologiques pour y retrouver la confirmation de ces faits.
Voilà, Paul Rassad, donc, sur ce personnage, Jean-Henri Fabre, très connu des entomologistes, et que vous citez, puisque vous lui rendez hommage abondamment dans votre livre, Mathieu Lureau, qui paraît chez Tana Édition, s'appelle La planète des insectes. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, parce que vous, qui êtes expert de l'intelligence animale et de celle des insectes en particulier, Jean-Henri Fabre refusait, lui, de reconnaître le moindre signe d'intelligence chez les insectes, c'est ce que vous écrivez?
Et oui, c'est là toute la contradiction. Il a été le premier à observer ces animaux, à faire des expériences de résolution de problèmes avec ces animaux.
Ouais.
Il décrit dans ses livres des formes d'intelligence, mais à chaque fois, il trouvait une autre explication alternative, qui était que tous les comportements qu'il observait étaient purement instinctifs.
Ouais. Et ça vous agace pas, vous, en tant que spécialiste de l'intelligence des insectes?
Bon, alors aujourd'hui, on regarde ça avec un peu de hauteur, et effectivement, nous avons vécu notre révolution cognitive,
ouais,
au cours des 50 dernières années, où maintenant, on est OK avec le fait de dire que les insectes sont intelligents et montrent différentes formes d'intelligence, ouais, parfois très sophistiquées et impressionnantes.
En tout cas, vous lisez et relisez toujours en tout cas ces écrits. Hein.
Exactement, car en fait, c'était quelqu'un de très ingénieux qui a commencé plein d'expériences sans jamais toujours les finir. Et aujourd'hui, j'ai plein de collègues qui puisent dans ces bouquins pour réaliser ces expériences à nouveau avec les moyens et les connaissances actuelles.
L'observation en milieu naturel, d'ailleurs, telle que lui la pratiquait, c'est un peu le béaba, d'ailleurs, pour votre métier, Mathieu Lureau.
Eh bien, ça
devrait, en tout cas. Ouais.
Disons que ça l'a été au tout début, et puis à partir du XXe siècle, quand l'éthologie s'est développée, la biologie, la science s'est développée, on a créé des laboratoires, on a importé des animaux dans ces laboratoires, on a voulu les contrôler de plus en plus, et pour de très bonnes raisons, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans la nature. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on a peut-être perdu un peu le lien avec la nature, et on pose parfois des questions qui paraissent tirées du chapeau et qui paraissent des questions complètement anthropomorphiques, donc,
ouais,
qui viennent de notre monde et notre problématique à nous, et qui sont peut-être des fois loin des problèmes qu'encontre un animal, un insecte, un papillon dans la nature.
Ça paraît fou d'ailleurs quand même, que les spécialistes des insectes soient déconnectés du terrain, hein, finalement.
Exactement, alors on est de plus en plus à accepter qu'il faut aussi prendre du temps pour retourner dans la nature et réobserver nos animaux pour recontextualiser tout ce qu'on est en train,
ouais,
de faire.
Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des biais énormes, finalement, entre le laboratoire et le terrain?
Ah oui, tout à fait. Déjà, quand on est dehors à l'air libre, on a un soleil qui a une lumière particulière, donc des UV, il y a du vent, il peut y avoir des obstacles, des prédateurs,
ouais,
qui interagissent avec l'environnement, ce qui n'est plus du tout le cas dans un laboratoire. Et donc, les animaux qu'on teste dans un laboratoire ou qu'on teste à l'extérieur, ils ouais, sont pas du tout dans le même état.
Ça veut dire quoi? Qu'il faudrait refaire pas mal d'expérimentations?
Au moins, il faut essayer de renouer un lien. Donc, je dis pas qu'il faut qu'on retourne tous sur le terrain. C'est un autre métier. Moi, j'essaye de le faire à l'heure actuelle. Mais il faut qu'on ait les deux approches complémentaires, le terrain, le laboratoire, et que ça discute un petit peu plus.
Ouais. C'était quoi votre rêve quand vous étiez petit? C'était de devenir un grand chercheur d'insectes, justement, ou
Bien, pas du tout. Disons que j'ai toujours été fasciné par la nature et le monde animal, mais je me voyais plutôt étudier les grands singes ou les baleines au milieu du Pacifique.
Ouais. Donc vous avez fait plus petit en taille, mais en nombre, c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a combien d'espèces d'insectes répertoriées actuellement sur la planète?
Oh, il y en a à peu près 1 million, 2 millions, on ne sait pas trop,
ouais,
et on pense qu'il y en a entre 5 et 10 millions, puisqu'on n'a pas été voir partout.
C'est ça, il y en a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Et qu'est-ce qu'on entend par intelligence, alors, puisque c'est le sujet aussi de ce livre?
Alors, il y a plusieurs définitions. La définition que je prends, c'est vraiment la capacité d'un organisme à s'adapter à son environnement et à prendre une décision qui va permettre d'être bénéfique pour lui. Donc, c'est vraiment une flexibilité de comportement.
Ouais.
Ça, c'est l'intelligence. On peut l'observer au niveau individuel. Un individu qui réagit à son environnement de manière intelligente ou collective. Souvent, les insectes font preuve d'intelligence collective, où là, tout le groupe réagit aux perturbations de l'environnement. Et puis, quand on prend cette définition à bras-le-corps, on se rend compte que cette intelligence, eh bien, on peut l'observer à travers tout le règne animal, pas simplement les insectes.
C'est ça, il y a une diversité au sein même d'une même espèce, d'ailleurs, hein, effectivement.
Exactement.
Qu'est-ce que vous étudiez, vous, précisément, ou plus particulièrement comme insecte, Mathieu Lureau?
Alors moi, je suis spécialiste du groupe des abeilles, et mon insecte favori, c'est le bourdon.
Oui.
Le bourdon, donc ces grosses abeilles poilues et sociales. qui ont l'avantage d'être abondants dans la nature. Hein. Ça fait partie des abeilles qui ont beaucoup de succès et qui disparaissent à un taux réduit. Mais également, ces bourdons, ils ont l'avantage de bien se comporter en laboratoire et ils coopèrent beaucoup avec les chercheurs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut leur mettre n'importe quel type de lumière, ils vont se mettre à voler, on peut les faire rentrer dans des labyrinthes en plastique ou que sais-je.
On parlera avec vous des abeilles radioactives de Fukushima que vous avez étudiées au Japon. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on dise un mot des moustiques, qui sont, il faut le rappeler quand même, les insectes les plus dangereux pour les humains. Hein. 700 000 personnes tuées chaque année. Ces dangers qui ont d'ailleurs motivé pas mal de recherches hein, autour de ces insectes. Dans le but de quoi d'ailleurs? De développer des méthodes de contrôle des populations? C'était ça au départ hein?
Ah oui, oui, ça a toujours été ça. Donc les méthodes de contrôle, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on veut essayer d'éradiquer les populations, ce qui paraît aujourd'hui un petit peu inconcevable, ou soit on laisse les populations à bateau et puis on essaye à ce que les virus que transmettent les moustiques ne soient plus présents dans les moustiques.
Et alors, l'intelligence des moustiques, qu'est-ce qu'on peut en dire avec ce tout petit cerveau? Il y a des capacités cognitives étudiées?
Alors voilà, et plus récemment, des chercheurs ont commencé à étudier le comportement des moustiques pour trouver des solutions, disons, viables à plus long terme, pour coexister avec ces animaux qui sont les plus dangereux, comme vous l'avez répété, pour les hommes, pour les humains. Et sans trop de surprise, ces chercheurs ont démontré que les moustiques étaient capables d'apprendre des choses, d'apprendre des odeurs, d'apprendre des images, et de garder ça en mémoire très longtemps, toute leur vie.
Finalement. Est-ce qu'ils apprennent à bien piquer un humain, par exemple? Ça, c'est quelque chose qui se transmet aussi entre moustiques?
Alors, l'acte de bien piquer, je ne sais pas, mais en tout cas, les moustiques apprennent à reconnaître les odeurs des humains, donc, et c'est un renforcement positif. Donc, un moustique qui pique dans un humain qui a une odeur particulière va, s'il en a encore l'occasion, piquer de manière favorable chez un humain qui sent la même odeur que celui qui a déjà été piqué.
Et vous dites que c'est très sélectif hein, dans justement le choix de piquer telle ou telle personne. On n'est pas tous égaux. Hein. On n'est pas tous visités de la même manière par les moustiques.
Exactement. Et ça, je pense que la majorité des gens le savent. On est toujours dans un groupe. Il y a toujours quelqu'un qui se fait piquer beaucoup plus que les autres.
C'est ça.
Et c'est à cause de son odeur, qui n'est pas une mauvaise odeur, mais qui est une odeur qui est certainement plus facilement reconnaissable par les moustiques.
Ouais. Vous parlez du CO2 aussi, ça déclenche des activités particulières chez le moustique?
Alors le CO2, c'est vraiment l'odeur qui va attirer le moustique à grande distance.
Ouais.
Donc là, on est tous à peu près égaux, on dégage tous du CO2. Mm-hmm. Mais c'est une fois que le moustique est proche de nous, là, il va pouvoir faire des choix un peu plus raffinés.
Ouais. Et donc, ces moustiques, malgré ce petit cerveau, sont capables d'accumuler plein d'informations au cours de leur vie?
Voilà, exactement. Au moins des informations olfactives et visuelles sur une vie qui peut s'étaler de quelques jours à plusieurs semaines.
Et même les larves de moustiques aussi sont intelligentes, entre guillemets?
Alors, elles font preuve de capacité d'apprentissage également, des apprentissages qu'on considère moins sophistiqués, qui sont des habituations, c'est-à-dire que les larves s'habituent à ne plus répondre à un stimulus qui leur fait peur.
Ouais.
Et typiquement, ce sont ces larves qui sont à la surface de l'eau dans les seaux d'eau stagnantes. On voit plein de larves souvent, et quand on s'approche du seau, tout le monde coule au fond du seau. Donc ça, en fait, ça montre que les larves fuient le prédateur potentiel que l'on représente. Mais si vous faites ça 5, 10 fois, 20 fois au-dessus du même seau de larves, vous voyez qu'à la fin, les larves vont arrêter de plonger au fond du seau parce qu'elles ont...
Ça les fait marrer, quoi. Bon, ben ça y est, on a compris.
J'espère pour elles que ça les fait marrer. Ouais. En tout cas, elles ont compris que vous n'étiez pas une vraie menace.
Le conseil, d'ailleurs, c'est de vider l'eau stagnante hein, quand on a des pots avec un petit peu d'eau pour éviter d'avoir trop de moustiques et de larves donc, chez soi, je crois.
Hein. Exactement.
Mathieu Luro, La planète des insectes, on en parle avec vous. Vos chroniques sauvages paraissent chez Tana Édition. Vous êtes notre invité.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Mon père était... Au fond, c'était un faux bourdon, comme je vous l'ai dit. Et en fait, il s'est envolé quand je n'étais encore qu'une larve. En plus, il y a mon travail. Ne me lancez pas là-dessus, parce que ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi je n'étais pas fait pour être ouvrier. Ça, je vous le dis tout de suite. Je me sens physiquement inadéquat. Pas une fois dans ma vie, je n'ai été capable de soulever plus de 10 fois mon propre poids. Et c'est tout cet enthousiasme général pour le méga-organisme que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie, mais je n'arrive pas. Je veux dire, ça veut dire quoi? Que je suis censé ne penser qu'au bien-être de la colonie et qui pense à mon bien-être à moi? Qui pense à moi?
Voilà, extrait du film Fourmis en 1998, la vie d'un insecte quand on vit justement une vie dans une colonie. Vous qui publiez, Mathieu Leroux, La planète des insectes chez Tana Édition. Vous racontez que l'année dernière, plusieurs centaines de chercheurs ont signé un texte pour alerter sur l'existence probable d'une forme de conscience dans le règne animal. C'était l'objectif de cette déclaration de New York, c'est ça ?
Oui, exactement.
Il y avait un impensé dans ce domaine ?
C'est-à-dire qu'avec les travaux, notamment chez les insectes récents, qui suggèrent qu'il pourrait y avoir des formes de conscience chez ces animaux, on fait vraiment un pas très, très en avant là, dans notre évolution conceptuelle et scientifique. Et donc on se rend compte que cette conscience, cette proto-conscience, appelez-la comme vous voulez, elle est très certainement présente dans tout le règne animal.
Oui.
Et donc à partir de ce moment-là, il faut nous-mêmes en prendre conscience, disons, et se mettre tous d'accord en tant que scientifiques, philosophes, sur ce qu'on appelle la conscience, et prévenir le monde entier que nous, scientifiques, pensons très certainement que les animaux sont conscients. Et par conséquent, il vaut mieux prendre un principe de précaution, qui est de, tant qu'on n'aura pas démontré qu'ils ne sont pas conscients, de considérer qu'ils sont conscients.
C'est toute la question du bien-être de ces animaux d'ailleurs aussi. Hein.
C'est ça qui est sous-jacent derrière, ouais. Effectivement. Donc on ne traite pas un animal de la même façon si on considère qu'il est conscient ou pas.
Sur la question des émotions, vous qui étudiez donc, en particulier les bourdons, comment est-ce que vous faites pour savoir justement si un bourdon ressent ou pas une émotion et lesquelles ?
Alors là, effectivement, ce sont des questions qu'on se pose depuis quelques années, et on est un peu dans une zone grise, c'est-à-dire qu'on explore des concepts un peu nouveaux pour des invertébrés, des insectes qui ont un tout petit cerveau. Mais comme on le ferait chez des grands singes ou des oiseaux, il existe certains protocoles pour tester ce type de questions.
Alors,
en tout cas,
exemple,
pour attaquer ces questions.
Comment est-ce que vous faites ?
Et bah, typiquement, il y a le protocole du biais de jugement. Le biais de jugement, c'est si je vous remplis un verre d'eau à la moitié, et que je vous demande s'il est rempli plutôt un peu plus, ou s'il est à moitié plein ou à moitié vide, vous aurez une réponse qui va dépendre de votre état, donc de votre émotion, de votre état émotif. Pour tester ce type de questions chez les bourdons, on ne peut pas leur présenter un verre d'eau, mais on peut leur apprendre à aller visiter des fleurs jaunes, par exemple, des fleurs artificielles jaunes, et des fleurs artificielles bleues. Donc la jaune est associée à de l'eau sucrée, c'est une récompense, il faut y aller, la bleue, il ne faut pas y aller. Et puis à un moment donné, on peut leur donner, on peut leur tester leur jugement en leur proposant une fleur qui est turquoise. Donc qui n'est ni jaune, ni bleue. Et on demande dans ce cas-là au bourdon d'interpréter la couleur. Et donc on va avoir des bourdons qui vont aller vers la fleur, donc l'interpréter comme du jaune, et d'autres qui vont pas aller vers la fleur, ou qui vont mettre beaucoup de temps, qui vont interpréter comme du bleu. Donc on a une grande variabilité de jugement dans les populations de bourdons, et on s'est aperçu que ce jugement était corrélé à l'expérience que le bourdon avait eue juste avant. Si le bourdon avait été un petit peu stressé par nos soins, juste avant l'expérience, ils allaient interpréter l'eau turquoise plutôt comme du bleu, alors que si on leur avait donné une toute petite goutte d'eau sucrée, une petite récompense par surprise juste avant le test, là ils allaient interpréter le turquoise comme du jaune le plus souvent.
Et vous avez parlé, Mathieu Leroux, de fleurs artificielles. Est-ce que justement il n'y a pas un biais là, dans ce type de travail, parce que l'odeur par exemple de la fleur n'est pas la même, j'imagine, ou vous recréez exactement les mêmes conditions ?
Oui, pardon, j'aurais pas dû utiliser ce mot, c'est un peu notre jargon. Donc une fleur artificielle, c'est simplement un petit carré en couleur en plastique.
Ouais.
Donc un carré de plastique jaune, un carré de plastique
d'accord,
bleu.
D'accord, donc c'est pas du tout une fleur en réalité. Hein.
Pour nous, ça s'en rapproche, mais effectivement, dans ce cas-là, ça n'en est pas une.
C'est plus sur le travail de la couleur. Est-ce que vous travaillez sur la douleur, justement, de ces animaux ?
Pas moi directement, mais j'ai des collègues qui commencent aussi à attaquer ce type de problème. La douleur, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est subjectif, qui est quasiment impossible à démontrer chez un animal qui ne parle pas.
Ouais.
Par contre, il y a des signes qui ne trompent pas vraiment. Il faut dissocier la douleur de la nociception. Nociception, c'est un réflexe. Si quelque chose est nocif pour l'organisme, l'organisme va partir,
ouais.
S'enfuir. Par contre, si quelque chose fait mal, l'organisme peut choisir de rester et de se faire mal.
Ouais.
Voilà. Et donc, de la même façon, chez les bourdons, on peut tester ce type de questions. Ça a été fait récemment en proposant à un bourdon deux fleurs artificielles, donc deux carrés colorés. Un carré qui était chauffé, très chaud, 50 degrés, c'est très chaud, c'est nocif pour le corps du bourdon, et un carré qui n'était pas chauffé. Et lorsqu'il y avait la même quantité d'eau sucrée, la même récompense dans les deux sources d'eau sucrée, les bourdons, bien sûr, allaient vers le carré qui n'était pas chauffé à température ambiante. Par contre, si on mettait beaucoup d'eau sucrée dans le carré très chaud, et pas d'eau sucrée dans le carré qui était à température ambiante, on avait des bourdons qui commençaient à aller se faire cramer les pattes, en gros, pour boire de l'eau sucrée.
Mais donc, ça veut dire quoi alors? Qu'ils ressentent moins la douleur ou...
Non, c'est-à-dire qu'ils passent par-dessus cette nociception. Mm-hmm. Donc ils ont fait une décision qui est de favoriser, de prendre de la nourriture, quitte à se faire mal.
Donc en tout cas, c'est vrai que si ces animaux perçoivent la douleur, ça nécessiterait aussi de modifier les façons de travailler avec eux alors?
Et oui, tout à fait, ça nécessite de changer notre rapport à ces animaux. Alors dans la recherche, on a déjà fait ce mouvement hein, depuis une vingtaine d'années maintenant, où on traite les insectes, les invertébrés, comme si c'était des vertébrés. Donc on en utilise moins, on prend soin d'eux, on les divertit, on les nourrit bien, enfin bref.
Et on partage aussi les expériences scientifiques, plutôt que de les reproduire, c'est ce que vous dites, il y a un partage aussi qui permet finalement de répéter, de ne pas répéter inutilement tout ça. Quoi.
L'idée c'est d'utiliser le moins possible d'individus, donc on partage toutes nos données. Voilà, donc cette révolution a été faite, si vous voulez, dans le corps scientifique. Après, au niveau du grand public et au niveau des industries qui utilisent des élevages d'insectes, c'est pas encore exactement le cas.
J'aimerais qu'on parle criquets également avec vous, Mathieu Lioreau, parce que vous les avez étudiés. Et puis, il faut dire que chez les criquets, il y a des phénomènes biologiques très étonnants, comme ces migrations coordonnées de milliards d'insectes capables de traverser des continents, hein, des mers, en quête de nourriture. Est-ce qu'il y a des équivalents, d'ailleurs, dans le règne animal, de ces migrations-là gigantesques ou pas?
Pas à ma connaissance, non. Ouais. On est vraiment sur des milliards d'individus qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres.
Ouais. Alors, vous les avez étudiés. Est-ce qu'ils ont un chef, par exemple, à leur tête, qui leur indiquerait... quand et où partir, ou pas du tout?
Non, justement, c'est ça qui est fascinant dans l'intelligence collective des insectes, dans le règne animal. Hein. C'est très rare qu'il y ait un chef. Donc là, tous ces individus qui se retrouvent sur place, par milliards, donc à un endroit où il n'y a plus beaucoup de nourriture, vont décider, à un moment, de tous se mettre en route. Donc pour les larves, elles vont marcher les unes derrière les autres, et puis les adultes vont essaimer. Ils vont...
Et qu'est-ce qui les pousse à se mettre en route, justement?
Eh bien,
c'est quoi le déclencheur?
Voilà, les expériences qui ont été réalisées par des collègues nutritionnistes montrent qu'en fait, ces criquets ont faim. Donc ils sont à un endroit où il n'y a plus à manger. Mm-hmm. Ils ont faim, en fait, ils ont tellement faim qu'ils commencent à se manger les uns les autres. Et donc la source de nourriture la plus facile, elle est autour d'eux. Et
donc en fait, les criquets cannibales.
Exactement, ils sont cannibales, ils commencent à se mordre les uns les autres. Et ce qui se passe, c'est que le criquet qui se fait mordre commence à avancer. Et en avançant, il peut mordre celui qui est devant, qui va lui-même avancer. Et ainsi de suite, on pense que les migrations de criquets se mettent en route.
À cause du cannibalisme.
Pour fuir le cannibalisme.
Ce serait à l'origine, en fait, de ça.
Exactement.
Et même ces migrations qu'on voit aussi en Afrique, par exemple, avec les criquets pèlerins, le fonctionnement serait le même?
C'est le même moteur? C'est le même phénomène. Donc, en fait, on voit ces phénomènes de migration chez une vingtaine d'espèces à travers le monde, hein, sur tous les continents. Ouais. Et a priori, tous ces animaux se cannibalisent. Et on peut arrêter, de manière très partielle, le mouvement de ces insectes en leur donnant à manger, en donnant des protéines et du sel.
Vous expliquez, Mathieu Lioreau, que ce type de travaux peuvent permettre des avancées dans des domaines de la sécurité alimentaire et de la santé publique, parce que certains vous demandent mais à quoi ça sert de faire de telles recherches, et vous dites, mais en fait, il y a des choses très intéressantes pour l'humain aussi, si on veut être vraiment très anthropocentré. De quoi il s'agit alors?
Exactement, et dans le cas du criquet, c'est criant. Hein. La première application, c'est vraiment d'essayer de contrôler les populations pour pas que ça SM. Puisque quand ça SM, alors nous, on peut voir ça de très loin, mais quand ça se passe en Afrique du Nord, ça détruit toutes les cultures.
Sur des centaines de kilomètres.
Hein, voilà, exactement. Ça détruit des cultures, ça ravage les cultures, et donc ça touche l'alimentation d'énormément de personnes.
Ouais.
Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour essayer d'arrêter ces bandes, on déploie des pesticides en quantité énorme, ce qui a des effets complètement délétères sur l'environnement, et puis c'est pas viable à long terme sur les populations d'insectes qui développent des résistances. Ce qu'on a compris avec ces phénomènes, c'est qu'on peut arrêter, on peut empêcher la migration si on laisse la population sous une taille critique. Ouais. Voilà, si on arrive à réguler la population vraiment en amont.
Pour pas déclencher ce cannibalisme aussi, par exemple.
Exactement. Hein. Il n'y en aura pas de cannibalisme et on n'aura pas de migration à grande distance.
Vous dites que l'élevage intensif de bétail a été identifié comme un risque, justement, de grégarisation des locustes. Hein, c'est le nom donc des criquets, c'est la famille des criquets.
Exactement. Alors ça, c'est pour des criquets qui sévissent en Mongolie, hein, sur les plaines mongoles. Effectivement, l'élevage intensif appauvrit les sols en azote, donc le principal constituant des protéines, et en fait, on affame les criquets qui se regroupent et qui se mangent les uns les autres.
Mathieu Lioreau, on évoquera avec vous dans un instant d'autres recherches, par exemple sur les abeilles radioactives de Fukushima, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
L'atome vient de pénétrer dans le domaine des abeilles. À une solution de glucose qui alimente normalement les abeilles, le spécialiste de Saclay ajoute de l'or radioactif et compose à l'aide de ces deux éléments une sorte d'aliment miracle dont l'effet durera une semaine. Ainsi, les 40 000 abeilles de la ruche sont radioactives lorsqu'elles partent faire leur approvisionnement quotidien. Pour repérer les lieux de butinage et les fleurs préférées de ces laborieux insectes, il suffira désormais de battre la campagne avec un filet à papillons et un compteur GG. Sous le signe de l'atome, l'heure de la productivité a sonné pour les abeilles.
L'atome chez les abeilles, c'était aux Actualités françaises en 1959. Mathieu Lureau, c'est vous qui nous avez suggéré cette archive, à une époque donc où les apiculteurs avaient la possibilité de recourir à la radioactivité en complément alimentaire, c'est ça ?
Exactement, apparemment c'était le futur, l'avenir.
Ouais. Bonne transition en tout cas pour nous parler des travaux que vous avez menés au Japon pour étudier les abeilles de Fukushima. Là-bas, sur place, des collègues à vous ont placé des ruches d'abeilles mellifères, donc à différents endroits, c'est ce que vous décrivez dans votre livre La planète des insectes, pour étudier les effets de la contamination, précisément sur les pollinisateurs.
Exactement, oui, ce sont des travaux qui ont été initiés par des collègues de la ARSN, excusez-moi si je suis pas exact, l'autorité de l'agence de sécurité
de sûreté nucléaire
sûreté française, bref. Ouais. Donc des spécialistes français du nucléaire qui travaillent à Fukushima depuis plusieurs années et qui se sont mis à étudier les abeilles comme vitrine, espèce vitrine pour comprendre les effets de la radioactivité.
Les bio-indicateurs, hein, pour employer le jargon scientifique.
Exactement, bio-indicateurs. Et ils ont fait appel à moi pour étudier les effets sublétaux, donc les effets très subtils de cette radiocontamination sur le cerveau, ouais. Donc sur le comportement des abeilles.
Donc vous avez une machine pour ça ? Un capteur cognitif ?
Oui, on a développé une machine qui mesure automatiquement, si vous voulez, le QI des abeilles.
Ouais.
Donc, lorsque l'abeille rentre dans la machine, elle est reconnue, il y a tout un système qui se met en branle, une porte qui s'active, et l'abeille fait face à un problème qu'elle doit résoudre.
Qu'est-ce que vous observez alors sur ces abeilles radioactives ? Parce que vous avez donc, vous rentrez sur le site de Fukushima, hein, vous avez cette possibilité-là en tant que scientifique, avec des conditions d'ailleurs de sécurité particulières ou pas ?
Alors l'entrée est gardée, après une fois sur place il faut faire très attention à ne pas se faire contaminer, donc on n'a pas de combinaison particulière, parce que la contamination elle est sous forme de poussière,
ouais.
Donc il faut simplement pas y aller quand il y a du vent, se protéger la bouche et mettre des bottes en caoutchouc en gros.
Et le compteur, je gère avec vous ?
Et le compteur en permanence pour, ouais, savoir quelle est la dose que l'on reçoit.
Alors, qu'est-ce que ça donne donc ces études sur la radioactivité ?
Alors, les études sont préliminaires, pas totalement publiées, mmh, mais bon, c'est assez flagrant ce que l'on observe. Hein. Les abeilles qui sont au centre, à l'épicentre, si vous voulez, de cette pollution, n'arrivent plus à apprendre à discriminer deux couleurs. Donc, tout à l'heure, on parlait du bleu et du jaune. Donc, tout, ouais, à fait, elles n'arrivent plus à apprendre que dans le jaune, il y a une récompense, dans le bleu, il n'y en a pas. Ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, si on pense à ce que fait une abeille dans sa vie de tous les jours, elle butine sur des fleurs qui ont des couleurs particulières. Et donc, si elle n'arrive pas à reconnaître les fleurs de la bonne couleur, c'est-à-dire qu'elle butine de manière probablement au hasard. Et donc, la pollinisation se fait de manière dysfonctionnelle.
Donc, ça perturbe fortement les comportements des abeilles, le fait d'être radioactive, en fait.
C'est ce qu'on observe. Non, les abeilles qui n'arrivent plus à butiner de manière normale, mmh, et donc très possiblement tout l'écosystème sur lequel repose ce service là de pollinisation est dysfonctionnel, malgré que si un jour vous avez la chance d'aller là-bas, ça soit complètement luxuriant, il y a de la nature partout, il y a des animaux partout.
Donc c'est une biodiversité foisonnante, mais pour autant, quand on commence à l'étudier de très près, on voit effectivement que la radioactivité a des effets très différents d'ailleurs sur un certain nombre d'espèces. Hein.
Exactement, mais en tout cas, quand on observe les plus petits animaux, donc ces insectes, ils sont affectés.
Vous parlez des frelons également, est-ce que les abeilles japonaises en sont victimes, tout comme les frelons asiatiques que nous avons nous aussi en France par exemple depuis quelques temps ?
Oui, donc là-bas, une fois sur place, on ne s'est pas intéressé qu'aux abeilles domestiques, on s'est intéressé aussi à la faune sauvage. Mmh. Et les animaux qui étaient le plus abondants lorsqu'on y était l'année dernière, c'était ces frelons géants,
ouais,
que nous n'avons pas en France, heureusement.
Grand consommateur d'abeilles, hein, c'est ce que vous dites là.
Énorme consommateur d'abeilles, ouais, ils font la taille de mon pouce, la longueur de mon pouce. Donc c'est les plus gros, ah, hyménoptères, ouais, volants actuellement sur Terre, ouais, et dont les Japonais ont très peur.
Il y a des morts, hein, d'ailleurs, à juste titre.
Il y a des morts tous les ans, exactement. Mmh. Donc ces frelons se sont mis à manger nos abeilles. Donc on ne pouvait plus étudier nos abeilles, mais on a réussi à dompter les frelons et on a fait nos expériences sur les frelons, les expériences qu'on devait faire initialement sur les abeilles. Et en gros, on retrouve les mêmes symptômes chez ces frelons qui sont des animaux sauvages et qui sont là depuis plusieurs générations, depuis l'accident nucléaire.
Vous vous décrivez également la danse des abeilles. Alors ça, c'est un phénomène assez fascinant pour justement montrer comment ces abeilles fonctionnent. C'est très codifié, hein, il n'y a pas de place pour l'improvisation, c'est ce que vous dites. Mais je laisserai aux lecteurs et aux lectrices le soin de le découvrir dans cet ouvrage La planète des insectes, et on va passer aux questions qui sont arrivées sur franceinter.fr. Des questions, Mathieu Lureau, évidemment autour de la disparition des insectes. C'est vrai que d'ailleurs les abeilles sont en première ligne dans l'effondrement de la biodiversité et les pesticides jouent un rôle majeur, vous le rappelez aussi dans votre ouvrage. Marie-Christine demande, comment explique-t-on cette disparition des insectes? Quand je commençais à conduire il y a quelques lustres, les pare-brises étaient couverts d'insectes assassinés. C'est plus du tout le cas maintenant, c'est le fameux effet pare-brise. Comment on explique cette disparition? Il n'y a pas que les pesticides d'ailleurs, hein.
Non, c'est le monde tel qu'on l'a façonné aujourd'hui. Donc c'est le monde avec l'influence humaine. Et il en découle un réchauffement climatique qui n'est pas bon. Il y a des pesticides, mais il y a tout un tas d'autres polluants qu'on relargue dans l'atmosphère. Il y a les métaux lourds, ce qu'on a beaucoup étudié récemment, qui ont les mêmes effets que les pesticides. La malnutrition à cause parfois des zones d'agriculture trop intensives.
La perte de territoire aussi ou
pas ? La perte de territoire, la fragmentation des territoires. Mmh. Il y a plein d'espèces d'insectes qui nichent dans les haies ou dans les sols, qui n'existent plus.
Est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant qu'entomologiste, d'observer cet effondrement généralisé des insectes dans le monde ?
Ah bah oui, tout à fait, puisque les insectes, comme on l'a vu avec les abeilles, bien souvent assurent des services écosystémiques. Qu'est-ce que ça veut dire, un service écosystémique ? C'est qu'elles ont une fonction qui va bénéficier à tout l'écosystème et à l'humanité. Et donc, quand ces insectes disparaissent, ce service est amoindri, voire peut disparaître. Et si, par exemple, la pollinisation disparaît, c'est la plus grande majorité des plantes sur Terre qui ne peuvent plus se reproduire correctement. Donc oui, c'est alarmant. Mais c'est pas l'apanage des insectes.
Oui, absolument.
C'est toute la biodiversité qui est dans le même panier.
Éric nous dit, j'ai du mal à intégrer l'idée qu'un moustique soit intelligent, même si les travaux de ma fille qui étudie les abeilles dans le cadre de son cursus post-doctorat m'ont toujours scotché. Un moustique n'est pas, je crois, un insecte social, dit Éric.
Tout à fait, le moustique n'est pas social, mais l'intelligence n'est pas l'apanage des animaux sociaux. Il y a plein d'animaux solitaires qui doivent résoudre des problèmes pour trouver de la nourriture, c'est le cas du moustique, hein. Trouver un hôte à piquer et après trouver le bon endroit où piquer, trouver la veine qui est cachée derrière la peau et parfois les poils, ça demande des capacités cognitives assez sophistiquées.
Ulysse demande quelles sont les conséquences de l'utilisation de certains pesticides qui atteignent le système neuronal des insectes, comment est-ce que ça agit, exemple bien sûr des néonicotinoïdes. Sur l'abeille, vous avez observé ça très très bien.
Oui, voilà, c'est très bien connu maintenant, très bien documenté. Les néonicotinoïdes, ce sont des neurotoxines qui se retrouvent de manière résiduelle dans le nectar et dans le pollen. Donc quand les abeilles boivent ces neurotoxines, elles en ont plein le cerveau et en fait, ce sont des molécules qui viennent se fixer au niveau des terminaisons nerveuses et qui vont paralyser certains circuits neuronaux. Et si elles en mangent beaucoup trop, elles vont être complètement paralysées, elles ne pourront plus bouger.
Ouais.
Et en fait, ces pesticides ont été quand même développés pour paralyser des espèces pestes comme des pucerons ou des chenilles. Donc on voulait paralyser des insectes, on paralyse tous les insectes.
Anne demande, j'ai cru remarquer que les moustiques ne me piquent plus quand j'arrête de manger du sucre. Est-ce possible? Certains disent le contraire d'ailleurs.
Ah, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question. On lit beaucoup de choses, de liens putatifs entre le sucre et le moustique. Je crois que rien n'a été vraiment démontré à l'heure actuelle.
Mais les odeurs, en tout cas, comptent beaucoup. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein.
Par contre, les odeurs, oui.
Claude se demande si les moustiques utilisent une perception de l'épaisseur de la peau pour atteindre le sang plus facilement, à l'instar des sourciers, pour déterminer la profondeur de l'eau et sa quantité.
C'est une très bonne question. Je sais qu'ils utilisent, à la toute fin de leur comportement, ils utilisent un système de reconnaissance de la texture de la peau. Les moustiques peuvent apprendre certaines textures de peau. L'épaisseur, j'en sais rien. Mais par contre, ils sont attirés par la chaleur. Et donc, je pense que le sang est un peu plus chaud que le reste de la peau.
En tout cas, on retient qu'ils peuvent apprendre. Hein. Et ça, c'est vraiment le plus important avec leur capacité cognitive que vous illustrez abondamment dans cet ouvrage. La planète des insectes, Mathieu Lureau. Chronique sauvage, c'est aux éditions Tana Édition. Merci beaucoup d'être venu en parler.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui dans La Terre au Carré, et merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier. Bon retour à Toulouse.